Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de Société, une émission que je suis toujours très heureux d'animer et je suis aussi très très heureux et fier de vous savoir nombreux à l'écoute. Merci d'être là. On fait de notre mieux pour vous plaire, pour vous informer, pour vous divertir parfois aussi et pour vous faire fâcher, hein, sans doute, des fois aussi. D'autant plus qu'on a parmi nos invités certains qui suscitent tantôt l'adhésion, tantôt la critique. Nous allons avoir affaire à eux dans quelques instants, nos commentateurs de l'actualité notamment, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Un peu plus tard dans l'émission, le déclin du français à Montréal et au Québec de façon plus large. Il semble qu'on puisse désormais employer faire ce choix de mots de façon objective. Il semble bien que ce soit un fait avéré et non plus une question de perception, de point de vue ou de façon d'aborder les statistiques que ce constat d'une langue en déclin sur le territoire du Québec, parlant du français. Évidemment, on va discuter de tout ça tout à l'heure avec Jean-François Lisée, que vous connaissez bien, ancien chef du Parti québécois, mais aussi journaliste, auteur. Frédéric Lacroix, auteur également de ce livre tout récent, « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Alors, on parle de ça un peu plus tard avec ces deux invités, mais commençons tout de suite avec ceux qui commentent l'actualité à chaque semaine. D'abord, Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Et Frédéric Bérard, l'autre Fred, juriste, avocat, chroniqueur au journal Métro, auteur, son dernier ouvrage, je pense que c'est La Terre est une poubelle en feu, n'est-ce pas, Frédéric Bérard?
C'est exact. Salut, Nick Payne.
En attendant le prochain, merci d'être avec nous. Commençons par les choses sérieuses, là. Quand on découvre légèrement ses seins sur une photo de graduation de l'UQAM, on peut créer la polémique et, ma foi, nous amener dans une situation où les choses ne sont pas ce qu'on pensait qu'elles étaient. En l'occurrence, ici, OnlyFans, Instagram et autres grosses compagnies américaines sont devenues, semble-t-il, le lieu de la militance anti-patriarcale et progressiste, tandis que l'UQAM, au contraire, est cette institution gangrénée par le patriarcat et les attitudes paternalistes et fermées d'esprit. Je parle de cette histoire, donc, cette jeune femme qui, finissante en art plastique ou en art quelconque, là, je me souviens plus exactement, à l'UQAM. Non, mais pas de farce. Qui a légèrement soulevé sa toge, vous voyez, un peu pendant une photo de finissante de l'UQAM, et suite à quoi l'université l'a poursuivi parce que elle posait ce geste tout juste à côté d'un beau gros logo de l'UQAM, et elle a publié ses photos sur les diverses plateformes, dont OnlyFans, cette plateforme où, Frédéric Bérard, vous pourriez vous aussi vous dévêtir légèrement et récolter de l'argent, mais Instagram aussi et d'autres endroits comme ça. Madame Hélène Boudreau, c'est comme ça qu'elle s'appelle, se dit elle-même porn star, hein, donc star du porno. Suite à la poursuite de l'UQAM envers elle, qui s'est réglée hors cours, là on y reviendra, un mouvement s'est levé en défense de cette dame pour la défendre contre les assauts. Ce n'est pas une farce que je fais là, hein, de cette attitude patriarcale de l'UQAM, notamment. Il y avait même un hashtag Papa UQAM. Et donc, il s'agissait ici de défendre cette jeune combattante de la liberté de choix des femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous, Frédéric Bérard? D'abord, pourquoi on poursuivait là, plus sérieusement? Qu'est-ce que c'est? Allons d'abord dans ce qui est objectif là-dedans. Là. Qu'est-ce que l'UQAM avait le droit de faire? Pourquoi l'UQAM l'a-t-elle fait?
J'espérais tellement que vous passiez la rondelle à la pointe pour commencer. Et je suis sûr que Fred pensait la même chose. D'un point de vue objectif, si objectivité il peut y avoir, c'était une poursuite, et je dis c'était, je parle au passé parce que c'est réglé maintenant, hors cours, pour atteinte à la réputation. Bon, les méchantes langues ont dit qu'on peut pas poursuivre en réputation si on n'a pas de réputation comme l'UQAM, mais ça, c'est les méchantes langues, vous le savez.
Ben, c'est les méchantes langues de droite, là, en l'occurrence.
Hein?
Pas toujours, hein? D'accord.
Mais, non, faire sa part, Bon, est-ce que l'UQAM était en droit de plaider, oui, mais est-ce qu'elle avait raison de dire que l'ex-étudiante en question atteignait sa réputation en utilisant le logo, puis en bon. Franchement, je sais pas aller très loin, hein, parce qu'il y a eu un mouvement, vous l'avez dit, là, de contestation assez fort, moi, que j'avais pas vu venir du tout. Le papa UQAM, j'avoue que je suis peut-être parfaitement déconnecté, là, mais j'avais absolument pas vu ça venir. Reste que il y a un peu de syndrome de Barbara Streisand ici, hein. Personne ou à peu près avait entendu parler de cette histoire-là.
Les fameuses photos de sa demeure, expliquez-nous.
Exact. Qui avaient été vues par quoi 6 personnes et qui ont été vues par 600 000 personnes après la poursuite. Donc, c'est un peu la même chose. Probablement que, je pense que ça s'appelle quoi, Boudreau, vous avez dit. Boudreau en question ne pouvait souhaiter meilleur dénouement. Paraît même que sera à tout le monde en parle demain soir. Alors, pour son OnlyFans, évidemment, c'est la meilleure invention depuis l'eau chaude, là, ce qui pouvait arriver là. Est-ce que l'UQAM, donc, était en droit? Moi, je sais pas, je trouve ça...
Mais en droit, expliquez-nous, là, on peut décider de poursuivre quelqu'un qui se sert de notre image quand on est une institution, une entreprise ou...
Ouais, mais là, attention, là, c'est pas McDonald's, là, c'est pas Canadian Tire, c'est pas Starbucks, c'est une institution universitaire de savoir où, une institution qui est publique, particulièrement l'UQAM, à plus forte raison, où il peut y avoir certains débats, où en fait il devrait y avoir certains débats. C'est pas la marque de commerce d'une université. Je ne crois pas qu'il y ait de la jurisprudence là-dessus qui puisse la comparer, par exemple, à la marque de commerce d'une entreprise, là, par justement le McDonald's ou compagnie là, capitaliste très très classique. Donc, je pense que la cour aurait probablement pris ça en considération. Et pour le reste, quel est le dommage, hein? Parce que quand on poursuit en atteinte à la réputation, ça prend 3 choses. Ça prend une faute, ça prend un dommage, ça prend un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ici, est-ce qu'il y a faute de se montrer une partie de son anatomie à côté du logo de son alma mater?
Moi, oui, mais pas, c'est pas chez soi dans son salon, hein. C'est ça, c'est pendant la séance officielle de photos de finissant, de graduation. Donc, est-ce que c'est là-dessus qu'on s'est fondé? Est-ce qu'il n'y a pas de possible dommage sur l'image? Qu'est-ce que c'est que cette université où tout le monde est tout nu?
Il y a quand même un photographe ou une photographe payée par l'UQAM qui a décidé de prendre la photo, là.
Probablement plus payé par l'UQAM au moment où on se parle.
Non, probablement que c'est réglé. D'ailleurs, moi, ça me fait penser, si je peux me permettre, là, quand l'UQAM a poursuivi, ils ont engagé un bureau d'avocat, Spiegel Sommer, je ne me trompe pas. Donc, j'ai essayé de m'imaginer comment le jeune avocat ou le stagiaire allait... qu'est-ce qu'elle a inscrit sur sa facturation à la cliente? 3 heures de vérification de photos obscènes. C'est quand même assez particulier comme mandat, on va se dire. Donc, pour le reste, moi, je pense pas que ça allait très loin, tout ça. Je pense que c'est plus une façon pour l'UQAM de stopper un espèce de mouvement là, qui aurait peut-être pu se créer, mais disons qu'ils se sont plantés assez sévèrement là, parce que c'est justement le contraire qui s'est produit. C'est que les plusieurs ont créé, justement, on l'avait dit, l'espèce d'hashtag Papa UQAM et sont embarqués dans ce train-là pour traiter l'UQAM de patriarcale, d'hypocrite, parce qu'elle avait encouragé certains événements de nature plus sexuelle avec du bar 281 ou je sais pas quoi. En tout cas, bref, ça pour dire que c'est une bonne affaire que ce soit fini, et moi, ça témoigne de la chose suivante. Il faut vraiment vivre dans une société de cochons gras pour passer autant de temps à discuter d'une connerie semblable. Voilà.
Frédéric Lapointe, le mouvement de défense de cette jeune femme, c'était facilement identifiable là, à une certaine jeune gauche progressiste, pas toujours jeune, vous me direz, mais enfin, on oserait dire le mouvement woke ici, un certain féminisme petit bourgeois, un peu, bon, qui cherche des luttes, pas toujours au bons endroits selon plusieurs. Est-ce qu'il y avait quand même une question d'image en jeu pour l'UQAM ici? Et si oui, l'UQAM s'est-elle un peu fourvoyée sur la nature de son marché, puisqu'on parle d'image? L'UQAM n'a-t-elle pas compris qu'elle est quand même l'université de l'inclusion et de la gauche postmoderne et que par conséquent, elle se rentrait un doigt dans l'œil bien comme il faut en lançant cette poursuite?
Ben, comme en bien des matières, lorsqu'on parle de ce public ou de cette clientèle, ceux qui en sont proches en sont les premières victimes. On n'aurait probablement pas vu un tel comportement dans une institution où l'anarchisme, l'iconoclaste, l'absence de respect des institutions est moins pratiquée. Et je pense qu'à l'UQAM, on n'a pas affaire, comme vous le dites, à un établissement là de type confessionnel, conservateur ou rien de tout ça. Mais certaines personnes se sont probablement demandé si on peut faire de l'argent à travers une activité de l'UQAM, non autorisée par ailleurs, hein, le fait de s'exhiber et de faire de l'argent via un site web parallèle. Ben, si ça, c'est possible, si on admet que notre clientèle peut manquer de respect envers l'institution à ce point, ben, quelle est au juste la prochaine étape? Est-ce que la prochaine étape, c'est justement de tourner un porno dans les locaux de l'UQAM sans autorisation et d'en faire une publicité?
Ah oui, ça prend l'autorisation, évidemment.
Laquelle va finir par avoir des effets sur la réputation de l'institution. Et donc, il y a un temps où, je ne sais trop si c'est une erreur en raison de la publicité entraînée, mais ça devient, comme on dit aux échecs, un coup forcé. On ne peut pas admettre dans une institution que des gens se livrent à des activités commerciales non autorisées. Ben, en particulier, là, si on veut être un petit peu barbon ou mononcle, lorsqu'il s'agit d'activités moralement discutables.
Et est-ce que... Oui. vous me laissez sans mots. Est-ce qu'on a fait le tour de ce sujet? Je suis certain que vous voulez ajouter quelque chose, Frédéric Bérard.
Ça fait longtemps.
Alors, passons aux choses. J'ai dit post-moderne hein, tout à l'heure. Je voulais dire post... la nouvelle gauche. Hein. Je ne vais pas mélanger les concepts. Une certaine nouvelle gauche. Mais tu sais, oui, je vous relance là-dessus quand même, Frédéric Bérard. Est-ce que c'est vraiment un geste de défense de la liberté de faire ce qu'elles veulent de leur corps des femmes, ce geste-là? Ou c'est plutôt un geste pour se faire de la pub sur OnlyFans et faire beaucoup d'argent?
Bon, je sais pas. Là, je sais pas
parfait. C'est une excellente réponse.
J'ai aucune idée. Peut-être un peu des deux. Moi, franchement, à vrai dire, ça me fait plaisir de vous en parler parce que je suis content de vous parler à tous les deux. Là, mais ce sujet-là, là, honnêtement, là, pas trop souvent.
C'est pour ça que je vous ai renvoyé la rondelle. Vous parliez de la rondelle. Passons aux autres choses accessoires, moins sérieuses, comme par exemple la pandémie. Est-ce que... alors, on a beaucoup critiqué les allers-retours, les rétro-pédalages récents du gouvernement Legault, notamment sur 48 heures, là, il y a quelques jours, le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, que vous aimez beaucoup, Frédéric Bérard, qui disait « ça va, tout est sous contrôle, nous allons assumer, même s'il y a, je ne sais pas, 2000 cas, on va continuer dans les mesures. » Et le lendemain ou le surlendemain, hop, on resserrait les règles. Et nous en sommes aujourd'hui à même devoir porter le masque lorsque nous marchons à l'extérieur avec des gens qui ne sont pas de notre bulle familiale. Les taux se resserrent, le nombre de cas monte. L'exemple de l'Ontario n'est pas rassurant du tout en ce qui a trait à la capacité de propagation des nouveaux variants du virus. Est-ce que, Frédéric Lapointe, le gouvernement Legault a trop relâcher les mesures avant de les resserrer à nouveau, ou est-ce que, au contraire, ils devaient, d'une certaine façon, répondre aux pressions populaires? Parce qu'on l'oublie, mais il y a quelques semaines, les chiffres étaient très bas. C'était difficile de justifier qu'on resserre. Où est le juste milieu dans ça?
Alors, moi, j'ai aucun problème avec le yo-yo gouvernemental. C'est le bon ton, c'est consensuel de le dénoncer hein, pour d'avoir une idée concrète sur ce qu'il faudrait faire. On dénonce ce que fait le gouvernement. Moi, j'ai aucun problème à ce que, pour tenir une ligne mitoyenne, tantôt il faille tourner le volant à gauche et tantôt il faille tourner le volant à droite. Vous connaissez mon point de vue sur les variants. Moi, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec un certain degré de risque. On a affaire à une situation où la contagion peut s'étendre plus rapidement. De la prévenir pour encore quelques semaines afin d'éviter une dernière fois d'encombrer le système de santé, ma foi, pourquoi pas. Mais si vous regardez les statistiques, on a essentiellement des gens d'âge moyen qui attrapent le virus parce que, oui, effectivement, tout n'est pas fermé. Et si vous regardez les statistiques d'hospitalisation, les statistiques de décès, on est nulle part comme dans la première ou la deuxième vague. Et si vous regardez les pays qui ont de l'avance sur la vaccination, ben variant ou pas, on est dans des situations qui ressemblent à des vagues de grippe là en termes d'hospitalisation et en termes de décès.
Quand vous dites que ça ne se compare pas à ce que c'était dans la première vague, dans quel sens?
Ben, vous vous souvenez, dans la première vague, on avait des décès là, qui roulaient à l'ordre de la centaine par jour. Là on est dans 10 fois moins que ça, tout en ayant une capacité de dépistage des cas là, qui est considérablement accrue. On a entendu le président français dire c'est épouvantable, il y a des jeunes aux urgences qui attrapent la COVID, alors qu'avant, c'était les vieux. Ben ouais, évidemment, là. Les vieux sont vaccinés, donc on va voir plus de jeunes dans les urgences. En proportion, c'est tout à fait normal. Ils ne vont pas en mourir pour la plupart. Ils vont peut-être rester à l'hôpital longtemps, mais ils ne vont pas en mourir. Et lorsque tout le monde sera vacciné, ben il y aura encore quelques cas de COVID graves qui vont survenir, mais on fermera pas l'économie pour autant à chaque fois. Donc, on va louvoyer encore quelques semaines, là, puis ça achève là, avec le niveau de vaccination qui va augmenter.
Frédéric Bérard, partagez-vous cette belle assurance tranquille de Frédéric Lapointe sur le fait que, je paraphrase, si on regarde froidement les chiffres et qu'on prend son gaz égal, comme on dit en grec, ça va pas si mal que ça, puis il n'y a pas lieu de s'inquiéter?
Ben, en fait, je partage une partie des constats, Frédéric. Le constat principal, c'est celui que ça achève. L'effort de vaccination, malgré les ratés, est quand même relativement au rendez-vous. On a un autre record de vaccination hier, 73 000. Avant-hier, c'était 69 000. Ça commence à être sérieux. Les 55 ans et plus qui ramassent l'AstraZeneca, donc ça va libérer de la place pour les plus jeunes éventuellement. Bref, tout ceci, à mon avis, va dans le bon sens. Par contre, où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sur l'espèce de louvoiement. Et on s'en souvient, on en a parlé souvent à ce show-ci, il y a peut-être quoi, 3 semaines, 1 mois, il y avait des pressions politiques, il y a même eu une manif à Québec où certains partis politiques, en fait la plupart des partis politiques ont participé, notamment les libéraux, Québec solidaire, le PQ de Saint-Pierre-Plamondon, qui était lui-même là, pour réclamer un relâchement. Ça, moi, on en avait parlé à ce moment-là, puis je maintiens ma ligne. On peut pas mélanger la science puis la récupération partisane. C'est pas une question de politiquerie, c'est une question de lutte à la pandémie, d'assurer une santé, d'assurer des impératifs de santé publique. Or, là, clairement que le gouvernement Legault s'est dit, ah, ben, tiens, je vais relâcher, peut-être plus que demandé d'ailleurs, pour faire plaisir à un, pour faire plaisir à l'autre. Puis on le voit hein, dans les extraits qui sont communiqués ici et là, là, qui coulent dans les médias. Ah oui, mais là, pour faire plaisir aux lieux de culte en région, parce qu'ils sont de notre bord, puis c'est ci, puis c'est ça. Ça, c'est nécessairement la pire attitude à y avoir. Puis je me rappelle d'avoir dit sur ces ondes-ci que là, c'est bien beau le relâchement. Puis je comprends pourquoi on le fait, parce que les gens sont écœurés, puis ça va. Mais qu'on vienne pas brailler dans 3 semaines, dans 1 mois, quand on va s'être tapé un autre niveau une nouvelle vague, causée notamment par les variants. Frédéric a raison de dire que là, ce sont les jeunes, parce que nécessairement, les vieux sont de plus en plus protégés. Mais reste qu'il y en a des jeunes qui en meurent. Là. On l'a vu encore cette semaine. Un de 16 ans, un de 40 ans. Je pense qu'il y en a un autre aussi. C'est peut-être pas une catastrophe en termes numériques. Mais reste que c'est un virus qui est potentiellement mortel et dont on ne connaît pas les effets long terme, même si on n'en meurt pas. Donc, nécessairement, moi, je sais pas. Je trouve que le gouvernement Legault a cédé au chant des sirènes. Et là, et le pire là-dedans, c'est évidemment le bon vieux Arruda qui, comme une fois, dit absolument n'importe quoi. Quel clown, ce gars-là. Non, si ça monte à 2000 cas, stressez pas. Ça, c'est le mardi soir. Le jeudi, les règles sont serrées parce qu'on est rendu à 1000. Tu sais, je veux dire, ce gars-là, puis Patoff le clown, là, je veux dire, c'est similaire. Il y en a un qui est drôle, par contre. C'est pas Arruda.
Mais alors, c'est parce que M. Arruda ne contrôle peut-être pas ce qui se décide en politique. Est-ce qu'il faut tout de même reconnaître que le politique, l'exercice politique est complexe et que le gouvernement de M. Legault devait, Frédéric Bérard, subir des pressions énormes de tout un paquet de gens qui, par exemple, sont susceptibles de voter pour lui bientôt ou ont déjà voté pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas en dictature. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît de d'édicter comme ça des lignes de conduite liberticides. Est-ce que vous reconnaissez ce bout-là quand même?
Non seulement je le reconnais, mais je le dénonce. C'est que si tu bases ta lutte à la pandémie sur des impératifs partisans, ben on n'en reviendra jamais.
Non, mais politique. Hein? Ouais, alors, si on perd l'adhésion, puis on se retrouve comme avec Emmanuel Macron, par exemple, ça marche pas mieux.
Contrairement à ce que dit Frédéric tout à l'heure, là-dessus, je n'étais pas d'accord du tout. L'effet yo-yo s'est démontré. Ça fait reculer l'adhésion sociale à la lutte à la pandémie. Parce que les gens, je veux dire, ils pensaient que c'était peut-être terminé, en tout cas, on s'en est la lumière au bout du tunnel. Et là, il y a des études qui sont sorties d'ailleurs cette semaine, ou des sondages, ou je ne sais trop quoi, qui expliquent très clairement que non, cet effet yo-yo-là est un effet absolument décourageant sur le moral des troupes. Puis il y en a plusieurs qui finissent par se dire, you know what? screw that, je vais faire ce que je veux, puis tant pis. Puis là, je pense qu'on est en train de le voir. On est encore à 1600 cas aujourd'hui, ce matin à 11h. Donc, moi, honnêtement, l'autre problème, puis je termine avec ça, c'est que on peut les tirer, l'élastique, on peut relâcher, et tout, c'est correct. Mais plus on va faire ça, plus ça va être long. C'est ça l'ironie de l'affaire. Si on avait attendu un autre 2 ou 3 semaines, comme les experts le demandaient, parce que le variant commençait à s'installer un peu partout, si on avait attendu un autre 2-3 semaines, peut-être un mois avant de relâcher le tout, peut-être qu'on ne serait pas dans une situation où on est actuellement. En fait, de toute évidence, on ne le serait pas.
Je pense qu'il n'y aura pas unanimité entre vous deux là-dessus aujourd'hui. Passons à un autre sujet. Tant les libéraux que les néo-démocrates à Ottawa sont en congrès cette fin de semaine. Ce qui me donne envie de vous parler de Jagmeet Singh un instant, puisque nous avions pris congé la semaine dernière. Frédéric Lapointe, M. Singh a inventé un nouveau concept à la télévision en direct devant 1 million de personnes. Je pense que c'était dimanche dernier. Le mot en F, le F-word. Alors, pour évidemment, on aura deviné que ça voulait dire « frogs ». Monsieur Singh essayait d'expliquer par là pourquoi certains sont sensibles, pourquoi il n'a pas, au fond, condamné les propos du professeur Attaran, là, qui dénigre beaucoup le Québec, alors qu'il avait... Je me reprends. Il n'a pas demandé à un... Disons qu'il a été beaucoup plus... tiède quant à la dénonciation de ses propos comparativement à ce qu'il avait fait lorsque Mme Verouchka, lieutenant Duval, avait malencontreusement prononcé un mot dans une classe alors qu'elle essayait d'expliquer les tenants et aboutissants de ce mot et surtout pas dans un dessin dénigrant. Alors bref, M. Singh disait « Oui, c'est difficile. Vous voyez ici, par exemple, au Québec, il y a le F-word qu'on ne peut pas prononcer. Est-ce que vous avez été surpris par ce nouveau... par ce propos?
Non, moi, je considère que M. Singh voulait prêcher par l'exemple. C'est un acte de pédagogie. Est-ce qu'il a touché sa cible? Je ne pense pas. Je pense que à peu près tout le monde était assez unanime pour dire que, en particulier lorsque le geste n'est pas demandé, il n'y a personne qui demande à ce qu'on proscrive le terme en question. Les gens ne veulent pas qu'on les insulte. Bien entendu, je ne pense pas qu'il y a personne qui a écrit une ligne pour dire qu'on ne devrait pas prononcer le terme frog, mais il voulait probablement prêcher par l'exemple. Et le reste de son intervention, tout le monde en parle, illustrait ce que plusieurs observent et qui, en général, est agaçant pour qui que ce soit, une vision un peu républicaine, égalitaire des choses, à savoir que il y a des normes, il y a des règles qui ne s'appliquent pas à tout le monde. Il y a des choses qui peuvent être dites par certains en raison de leurs caractéristiques, la couleur de leur peau, ce qu'ils ont vécu avant ou je ne sais trop, et d'autres non. Et que d'autres en particulier, si on compare ce qui s'est produit à l'Université d'Ottawa, lorsqu'ils ont seulement l'air de s'en approcher, même sans intention, ils se trouvent à être dénoncés. Et lorsque les intentions sont particulièrement claires, là, on trouve toutes sortes de raisons là, pour ne pas le faire. Cela étant dit, je ne veux pas casser plus de sucre ou donner plus de publicité à M. Attaran ou même à M. Singh. Leurs gestes des dernières semaines ont tellement aidé les familles politiques qui correspondent à mes sensibilités que j'ai en fait envie de leur envoyer un chèque, des lettres de remerciement, une douzaine de roses, je veux dire, faites ça à tous les 6 mois, puis l'entend les objectifs politiques.
Frédéric Bérard, vous qui nous avez permis de voir les cheveux de M. Singh à un certain moment dans une entrevue sur votre sofa, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Le point de départ de ça, c'était, les propos du professeur Attaran à l'effet que les Québécois, la nation québécoise, disait-il, est suprémaciste blanche parce qu'elle a élu un gouvernement suprémaciste blanc. Bon, j'arrête là, mais je pourrais continuer un certain bout de temps. Suite à quoi, un député du NPD avait en quelque sorte félicité M. Attaran pour sa belle lucidité. Suite à quoi, M. Singh a refusé, il a montré une belle empathie. Il n'a pas été trop dur envers son député. Il ne lui a pas demandé de, je ne sais pas moi, s'excuser. Il a eu un propos, une certaine mansuétude à son endroit. Voilà. Alors, on lui demandait pourquoi ce 2 poids, 2 mesures quand il s'agit de Mme Lieutenant Duval. Là, vous êtes pas mal plus prompt à accuser de racisme et le reste et le reste. Est-ce qu'il y a un 2 poids, 2 mesures et est-ce que ce 2 poids, 2 mesures peut être coûteux au Québec pour le NPD, d'après vous?
Ouais, c'est une question difficile. Vous l'avez dit, là, je connais bien Singh. Je l'aime beaucoup, en fait. C'est vraiment un humain d'exception. Honnêtement, c'est un gars absolument formidable à plusieurs niveaux. Ici, par contre, je suis obligé d'être en désaccord avec lui. Dans l'optique où ce que dit Attaran, moi je pense que ce que dit Attaran se dit est quand même protégé par la liberté d'expression académique, là, qu'on se comprenne bien. Mm-hmm. C'est absolument absurde et abject ce qu'il a dit, mais un congédiement ne serait pas approprié, là, contrairement à ce que certains demandaient. Tu peux pas faire ça avec des profs d'université pour des propos semblables, aussi ridicules et offensants soient-ils. Mais je pense que la posture de Jagmeet ici est à l'effet suivant, et plus de ça sans y avoir parlé. C'est très clairement de dire, ah, ben, ouais, au Québec, ça va être difficile de toute façon. Donc, là, ouais, puis, tu sais, on sait bien. Et moi, ce qui me désole.
Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai déjà pas grand-chose à perdre au Québec, ben, donc je tiens mes positions?
Je pense que oui, très clairement. Et selon les derniers sondages, je pense que ça va être difficile aussi. Puis, je ne pense pas que s'il avait condamné les propos d'Attaran, ça aurait fait une grande différence en termes de sondage. Une fois qu'on a dit ça, par contre, moi, ce qui me désole, c'est le deux poids, deux mesures. Parce que, bon, premièrement, moi, j'étais pas d'accord avec sa posture sur les propos de lieutenant Duval. Là, je me suis déjà exprimé là-dessus. Mais là, j'étais encore doublement...
Là, accusé de racisme, hein, ni plus ni moins. C'était
oui,
pas mal
exact. Et là-dessus, bon, sur l'utilisation du mot « Aryan », je pense que ça a éveillé certaines consciences. Je pense qu'on peut continuer d'en discuter, d'y réfléchir. Mais de condamner une prof qui le fait dans un but académique, peut-être de manière malhabile, ça c'est pas impossible, mais dans un but où elle essayait d'expliquer l'appropriation culturelle du mot en haine. C'était ça le cours en question. Elle-même, la semaine d'avant, avait permis à ses étudiants, avait levé le cours pour permettre à ses étudiants d'aller à une manif de Black Lives Matter. Donc très clairement, là, on peut pas accuser cette femme-là là, d'être raciste en soi. Je pense que c'est absolument... abject à tout le moins là, d'y aller des accusations semblables. C'est un peu ce que le recteur Frémont a laissé entendre d'ailleurs, ça c'est doublement abject parce qu'il a refusé de l'entendre avant de la suspendre, ce qui ne se fait pas tout simplement. Bref, j'étais en désaccord avec Singh sur le premier volet de l'histoire, mais là je le suis encore plus sur le deuxième. Pourquoi? Parce que les propos d'Attaran sont dégueulasses, et non seulement sont dégueulasses, mais je veux dire, ça se base sur rien. T'sais, François Legault est un suprémaciste blanc, là, tu sais, let's go, là. Puis l'Alabama du Nord, là, s'est rendu le Québec. Moi, là, ce qui me fâche surtout, c'est pas tant pour les Québécois, c'est pour ceux qui l'ont vécu, le vrai racisme en Alabama du Nord. Eux peuvent être drôlement furax, savoir que t'as ton grand-père qui a été pendu pour des motifs raciaux. Je trouve que ce genre d'analogie-là est absolument offensante, puis pas seulement pour les Québécois. Et pour finir, enfin, ce que ça témoigne, la posture de Singh, ce qu'elle témoigne, pis ça me désole, c'est encore cette espèce de double standard. Au Canada, et pour bien se rendre à l'évidence, le seul groupe sur lequel c'est commode de casser du sucre, ce sont les Québécois francophones. C'est le genre de truc qu'on admet encore. Pas tout le monde, évidemment, faut pas généraliser. Puis Attaran, c'est pas le porte-parole du reste du Canada. Attaran, c'est un imbécile qui parle pour lui-même, là, ça finit là. Mais reste qu'on n'a pas vu de condamnation si forte de ses propos comme on en a eu lorsque le lieutenant Duval a prononcé le malheureux mot dans probablement par inadvertance. Donc voilà. Tout ça pour dire que je peux pas être d'accord avec le chef du NPD là-dessus.
Mais vous le trouvez formidable. Pareil.
Non, mais je trouve que c'est un humain qui est formidable, mais comme policier, c'est autre chose.
Non, je résumais votre propos là. Oui, oui, absolument. On peut, oui, oui, l'humain. Là,
on peut passer deux heures avec lui puis avoir vraiment. C'est vraiment un humaniste au sens fort du terme. C'est un gars d'ailleurs qui a appris le français parce qu'il voulait apprendre le français alors qu'il était à Terre-Neuve. Il apprenait les chansons de Rock Voisine. Bon, ça, c'est discutable, mais pour le reste, clairement, il voulait apprendre le français de son plein gré, puis c'était mi-chum avec un prof de français là-bas pour, justement, puis il avait aucune ambition politique, là, il avait 12 ans. Mais bref, tout ça pour dire que oui, c'est un gars formidable, mais là-dessus, il a échappé, et c'est peut-être symptomatique d'une tendance qui est nécessairement déplorable, et je pense qu'on commence à avoir fait le tour, là, il serait temps de passer à d'autres choses, et de refuser le racisme envers les Québécois de la même manière qu'on refuse le racisme envers d'autres.
Vous, Frédéric Lapointe, Rock Voisine, ça vous va? Non, soyons sérieux, parlons encore un tout petit peu du NPD qui se prononce en fin de semaine pour réintégrer le mot « socialiste » dans sa plateforme. Et ces variantes, je présume, le socialisme et le reste, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est une façon de... C'est un pied de nez aux États-Unis d'Amérique, là où ce mot était parfaitement honni. Est-ce que même au Canada, ça témoigne d'une volonté de se radicaliser? Est-ce qu'il peut y avoir un coup politique à ça?
Ben, le NPD est dans une niche politique, comme on dirait, une niche écologique, qui est un peu obligé de se camper très à gauche. Le gouvernement libéral actuel imprime de l'argent à coût de centaines de milliards de dollars par année, un peu à l'instar du gouvernement démocrate américain réfléchit à la manière de pérenniser des transferts vers les individus de façon importante, créer des nouveaux programmes. Et donc, lorsqu'on a un gouvernement libéral qui tourne à gauche à ce point, ben faute de se faire avaler tout son air ou de se faire occuper tout son toute sa niche écologique, ben on est bien obligé de se creuser une tranchée. Je pense que c'est le phénomène auquel on observe. Et c'est vrai du terme socialiste, mais c'est probablement aussi vrai sur le front de la politisation des identités, là, pour le dire.
Ce dont on parlait il y a un instant, oui. Donc la nouvelle gauche des identités et de la victimisation, est-ce que je pourrais dire ça comme ça?
Oui, parce que le NPD est pas a toujours eu ces courants-là en son sein, mais lorsque le NPD gouverne des provinces, bien souvent, ce sont des gouvernements qui, oui, développent des programmes sociaux, mais sont plus responsables sur un plan fiscal que ne l'ont été les gouvernements libéraux, provinciaux ou même fédéraux. Et donc, lorsque le Parti libéral tourne à gauche, à moins que le NPD choisisse de contourner le Parti libéral par sa droite, ce qui serait fort étonnant, il est repoussé vers les extrêmes. Là, c'est ce qu'on observe.
Hey, mais bref, tout le monde tourne à gauche, hein, puisque pendant ce temps-là, Erin O'Toole, lui, veut reprendre un peu d'espace au centre. Alors, c'est à suivre, cette politique canadienne. Cher duo des Fred, merci de nous avoir éclairé ce matin, puis retournez profiter du beau temps si vous en êtes capable. À une prochaine, à la semaine prochaine. Merci. Dans un instant, chers auditeurs, nous revenons sur la situation du français au Québec. Les propositions, entre autres, de Jean-François Lisée en ce qui concerne notamment le cégep et l'application de la loi 101 au cégep. On va lui demander son avis là-dessus. Puis Frédéric Lacroix sera avec nous également pour commenter sur cette question-là. À tout de suite.
Note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Sur la situation du français au Québec et plus spécifiquement du du déclin du français à Montréal. Je vous présente tout de suite nos deux invités. D'abord, Jean-François Lisée, bien sûr, journaliste, auteur. Si cette partie de sa carrière vous avait échappé, vous l'avez sans doute connu comme chef du Parti québécois, enfin, j'espère. Et son dernier ouvrage, à moins que je ne me trompe, parce qu'il y en a plein, là, mais c'est « Guerre froide PQ », c'est ça, Jean-François Lisée?
C'est bien ça, Nick.
Alors, disponible sur votre... Oui, je vous entends bien, vous aussi? Oui. Ah, est-ce que vous êtes là, Jean-François Lisée?
Moi, je suis là.
Bon, parfait. C'est Frédéric Lacroix qui est parti dans le cyber-espace téléphonique, mais continuons ensemble en attendant. Donc, oui, « Guerre froide PQ », ça traite de la CIA, du KGB, de l'énigme québécoise. Pouvez-vous nous dire un mot là-dessus? C'est intriguant, ce titre-là.
Oui, ben, j'ai décidé de faire un genre de rapport de ce que l'on sait sur la présence des espions étrangers, donc les Américains, les Russes, les Français, les Cubains, pendant les deux décennies d'effervescence du mouvement souverainiste légal et illégal, donc PQ et FLQ, des années 60, des années 70, et expliquer quelles étaient leurs théories, quelle était leur présence, pourquoi ils étaient, certains d'entre eux, très inquiets de l'existence du mouvement indépendantiste, en plus, évidemment, des activités normales d'espionnage qui se passent sur notre territoire, entre autres pour venir voler des secrets industriels. Alors, ça fait un récit assez surprenant, le niveau d'intérêt que les agences de sécurité étrangères avaient pour notre petit coin d'Amérique.
Alors voilà pour Guerre froide PQ. On y reviendra peut-être dans une autre émission. Je vous présente tout de suite notre autre invité. C'est Frédéric Lacroix. Il est physicien de formation, chroniqueur aussi, auteur. Son dernier ouvrage s'appelle « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Il s'intéresse, vous l'aurez compris, beaucoup à la langue et à la situation du français au Québec. Sa démonstration dans ce livre est à l'effet que, pour toutes sortes de raisons, notamment à cause de la surcomplétude institutionnelle anglophone à Montréal, le français y est d'autant plus menacé. C'est ça, hein? Bonjour Frédéric Lacroix d'abord.
Oui, tout à fait, bonjour.
Alors commençons par Jean-François Lisée parce que ce sont ces textes de cette semaine dans Le Devoir, enfin du 3 et du 7 avril. Le premier était intitulé « La ténacité du déclin du français » et le second « Le grave danger des demi-mesures ». Et c'est celui-là qui a fait jaser davantage parce que, d'abord Jean-François Lisée, expliquez-nous ce que vous proposez précisément là-dedans et votre constat et ensuite ce que vous proposez comme solution.
OK. Ben d'abord, mon constat, je le partage avec celui de Frédéric Lacroix, que je salue et je veux saluer l'excellence de sa contribution à notre compréhension de ces enjeux-là. Son livre « Pourquoi la loi 101 est un échec » est excellent, il est à lire et Frédéric n'arrête pas de verser au dossier des observations et des éléments d'enquête qui sont très précieux. Alors, évidemment, le problème du français au Québec, de son déclin, vient à plusieurs sources. Évidemment, le fait qu'on soit en Amérique du Nord, donc la force d'attraction du reste du continent est un élément constant. Le fait qu'on a une immigration qui, pour moitié, ne connaissait pas le français au cours des 20 dernières années. 50% des nouveaux immigrants arrivent ici sans connaître le français. Moi, je pense que c'est une catastrophe. Et, évidemment, on a une augmentation de l'utilisation de l'anglais dans les milieux de travail à Montréal. Et ça, la progression est fulgurante. Alors, on mesure le nombre de lieux de travail ou de salariés pour lesquels le français et l'anglais sont utilisés à égalité, donc bilinguisme intégral, ce qui est le contraire de la volonté de la loi 101, d'avoir des milieux de travail où le français est la langue habituelle. Et là, on est passé de 9% au début des années 2000, à 25% des lieux sur l'île de Montréal où le bilinguisme est intégral. Donc ça, c'est vraiment la clé du déclin du français. Ça prépare des transferts linguistiques des allophones vers l'anglais puisque la langue de travail est un des déterminants. Alors, comment agir là-dessus? Ben, le problème, quand on revient sur la question des cégeps, c'est pas tellement que des francophones aillent au cégep français, c'est que les anglophones qui vont au cégep anglais et les allophones anglicisés qui vont au cégep anglais...
Attendez, vous vouliez dire les francophones au cégep anglais, hein? C'est ça?
C'est ça. Le problème, les gens qui veulent que la loi 101 s'applique au cégep.
Mm-hmm.
Ils disent, bon, à partir de maintenant, il ne faut plus que les francophones
voilà.
et que les allophones qui sont allés à l'école primaire et secondaire francophone aillent au cégep en anglais. C'est ça, la loi 101 au cégep.
Mm-hmm.
Puis moi, je dis, bon, peut-être, mais le vrai problème, c'est celui qui fait en sorte que les anglophones et les allophones qui ont fait leur, disons, leur secondaire en anglais sortent de leur cégep et de leurs universités en sachant si peu le français que lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, ils imposent l'anglais comme langue de travail à Montréal. Et ça, c'est ça le problème qu'il faut résoudre. Alors, la principale façon de résoudre ce problème-là, c'est d'après moi, de faire en sorte que tous les cégeps soient en français, c'est-à-dire que Dawson devienne un cégep francophone, et que toutes nos futures élites qui passent par le cégep professionnel et technique fassent leur cégep en français, aient une excellente connaissance du français, et aient compris par ce geste politique fort qu'on y tient au français langue commune, et là, lorsqu'ils arriveront sur le marché du travail, ben, ils n'auront pas à imposer leur langue aux francophones, puisque ils auront une bonne connaissance du français.
Commençons par le ce que vous venez de dire juste avant sur l'application de la loi 101 au cégep, donc essentiellement ramener les francophones et les allophones vers le cégep en français, si je comprends bien. Vous dites peut-être. En fait, dans votre texte, vous allez plus loin que peut-être. Vous dites que ça peut être, ça passe à côté de la cible et ça peut même être contre-productif. Donc,
c'est ça, je
de
dis,
quelle façon, juste?
Ben, je dis, ce n'est pas anodin. Je dis, je comprends l'argument de Frédéric et des autres qui disent, bon, ben, il y a une anglicisation, le nombre de francophones et d'allophones francisés qui vont au cégep anglais vont plutôt aller vers McGill, et donc ça va accélérer leur passage à l'anglais ou leur anglicisation. C'est pas faux, mais l'autre aspect, c'est que en retirant ces gens-là qui parlent le français et pour lesquels, pour la majorité, sont francophones, en les retirant du cégep anglophone, on crée un ghetto pour les anglos et on retire même leur source de contact avec le Québec français parce qu'ils sont partis. On les laisse tout seuls. Tu sais, c'est comme.
Ce qui serait, d'après vous, une sorte d'incubateur ou de haut-parleur encore plus fort, de système, de ce qui permettrait encore davantage aux anglophones d'attirer plus vers l'anglais, c'est ça?
Non, c'est-à-dire que dans cette discussion-là, on s'intéresse pas assez à la capacité langagière des anglophones. C'est sûr que si on fait en sorte qu'il n'y a plus un seul francophone dans les cégeps anglophones, ça va être encore plus difficile pour les anglos de parler le français, hein?
Mm-hmm. Donc ça, c'est en tenant pour acquis, bien sûr, que la présence de francophones dans les cégeps anglo, par exemple, aide les anglophones à fonctionner ou à aller vers le français.
C'est difficile à mesurer, mais ça ne peut pas nuire. Et c'est pas l'argument principal. C'est pas l'argument principal, mais c'est sûr que dans la totalité des choses, ben là, tout ce qui fait en sorte de les laisser ensemble dans leur ghetto,
oui,
ne règle pas notre problème de leur incapacité à parler correctement français lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. C'est là la catastrophe.
Parfait. On a bien compris cette partie-là de votre propos. Le reste aussi, mais je voulais éclaircir ça. Une dernière chose avant de passer la parole à Frédéric Lacroix. Comment en arrivez-vous? De quelle façon, selon vous, la question des milieux de travail et de la langue de travail est un, si vous voulez, un problème en soi ou même la cause, une des premières causes d'anglicisation, plutôt que le symptôme, par exemple, ou peut-être d'un autre problème plus large?
Ah ben, tout est dans tout, là. Je veux dire, tous les éléments de l'anglicisation se renforcent les uns les autres. Mais évidemment, notre problème, c'est qu'il y a de plus en plus de Québécois, de citoyens québécois qui ne sont ni francophones ni anglophones. Ils sont comme en stand-by dans un no-man's-land linguistique. Et un jour, ils vont tomber d'un côté ou de l'autre. Un jour, au petit déjeuner, ils vont décider qu'ils vont parler français ou anglais. En ce moment, ils le font à 54% pour le français. Et comme le dit souvent Frédéric, pour maintenir l'équilibre linguistique actuel, ça en prendrait 90%. Alors, une des causes de leur décision de passer de l'anglais au français...
C'est le milieu de travail.
C'est le milieu de travail. Alors donc, c'est pour ça que c'est si important d'avoir des salariés qui parlent le français et qui comprennent que le français... On tient à ce que ce soit la langue commune au travail.
Alors, Frédéric Lacroix, je me tourne vers vous. J'ai évidemment identifié tout de suite un point de divergence, en tout cas possible, sur la question du cégep, de l'application de la loi 101 au cégep. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire Jean-François Lisée là-dessus?
Ben, j'aimerais d'abord saluer. Je comprends que M. Lisée ne s'oppose pas à la, ne s'opposerait pas à la loi 101 au Cégep en tant que telle. Il aimerait qu'on aille plus loin. Bon, ben, je salue ça premièrement parce que c'est à mon sens un ralliement important. Là.
Parmi quelques autres, hein, Gilles Duceppe notamment, on a même pu lire Emmanuelle Latraverse, une journaliste qui n'est pas identifiée au camp souverainiste récemment, et puis plein d'autres. Là. Il y a une espèce de mouvement qui va dans ce sens-là en ce moment.
Carl Vallée, donc il y en a plusieurs qui se sont exprimés en faveur de cette mesure-là récemment. Je pense que M. Lula a tout à fait raison en pointant du doigt le problème de la faible maîtrise du français par les anglophones. Ça, c'est quelque chose de réel. On nous bassine souvent avec le chiffre que 94,5% des gens au Québec ont une connaissance du français, peuvent parler français, donc tout va bien. Mais on mesure jamais le degré de maîtrise. Et on sait qu'il y a le tiers des anglophones qui ne parlent pas français du tout, là, le tiers. Puis, parmi les deux tiers restants, on n'a pas d'idée réelle de la maîtrise, donc la capacité de travailler en français de ces gens-là. Mais on sait, par exemple, qu'il y a une étude de 2012, c'était une collecte de données de professeurs de cégep anglophones qui disaient que dans les cégeps anglophones, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent des écoles anglaises, qui arrivent avec un niveau de français très faible, donc qui sont classés au premier niveau des cours de français, puis ils évoluent très très peu. Donc, ils finissent leur cégep, puis ils sont pas du tout capables de travailler en français, puis après ça, bon, ils s'inscrivent à l'université en anglais, et leur niveau, ben là, il n'y a plus de cours de français obligatoires. Puis leur niveau de français chute. Donc, ils finissent le parcours postsecondaire. Mais puis finalement,
À cet égard-là, donc, Frédéric
Lacroix, ils sont incapables de travailler en français. Là.
Oui. Accédez-vous à ce que dit Jean-François Lisée sur ce qui serait nocif dans le fait de vider les cégeps anglophones d'un certain nombre de francophones?
Non, je ne suis pas d'accord avec cet argument-là parce que je pense que dans les cégeps anglophones, c'est l'anglais qui règne en roi et maître. Puis la présence des francophones ne contribue pas à franciser ces milieux-là. Sinon, ça se saurait, ça se verrait. On sait que les diplômés actuels des cégeps anglophones, par exemple, si vous demandez aux ordres professionnels, les diplômés actuels des programmes techniques, par exemple, sont incapables de passer avec succès leurs examens français. Donc, il n'y a pas d'effet d'entraînement à la présence des francophones dans les cégeps anglais actuels. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Alors, vous dites non au risque de la ghettoisation des anglos dans les cégeps anglos. Est-ce que, par ailleurs, comment vous voyez l'effet de l'application de la loi 101 au cégep? Je présume que vous la trouvez plus... vous l'imaginez plus efficace que Jean-François Lisée.
Bien, moi, je pense que ça ne va pas régler la question linguistique. Je n'ai jamais prétendu que la loi 101 au cégep allait régler le problème. Pour moi, c'est une mesure importante qui va aider, ça va donner de l'oxygène au Québec français, ça c'est vrai, mais ça va pas nous amener à 90% de transfert linguistique vers le français, je pense pas. Ça va pas rétablir le français à Montréal. Et ce qu'on oublie souvent, ça fait 20 ans qu'on parle de la loi 101 au cégep, on en débat, tout le mouvement souverainiste s'est déchiré sur cette question pendant 20 ans. Puis pendant ce temps-là, on oubliait de regarder ce qui se passait dans les universités. Donc, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut regarder le postsecondaire comme un tout. Donc, il faut cesser d'isoler le cégep de l'université. Il faut penser au cégep et à l'université ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'université? C'est ça qui m'intéresse. L'université a des impacts énormes sur la langue de travail à Montréal. Fait que je pense que même si on faisait, par exemple, la loi 101 au cégep pour tous... Ça ne va pas renverser le travail d'anglicisation qui se fait dans les universités.
C'est-à-dire le cégep français pour tous.
Oui, le cégep français pour tous, pardon.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que...
Allez-y,
pour ça que
Jean-François Lisée.
J'ajoute des... Je veux mettre un bémol. Là. Je remercie Frédéric de saluer mon ralliement à la loi 101 au cégep, mais je ne peux pas dire que je me suis rallié.
Oui, on ne peut pas vraiment dire ça quand on vous lit non plus, mais je pense que Frédéric Lacroix essayait désespérément.
Je dis c'est une demi-mesure. Bon, on va voir, c'est une demi. Une demi, c'est mieux que rien. Mais essentiellement, ce que je dis, sans, je ne ferai pas campagne contre, là, mais je trouve que ce n'est pas la bonne mesure. C'est pas la bonne
mesure. Est-ce que vous vous opposez à cette mesure?
Je ne m'opposerai pas à cette mesure.
Oui ou non?
Ben non, je m'oppose pas à la mesure. Je trouve que c'est pas la bonne. Tu sais, il y a un gain, mais c'est pas le gain est pas suffisant. Puis bon, alors c'est ça que je propose un vrai gain, le vrai gain, et c'est celui de rendre tous les cégeps francophones, transformer Dawson en un cégep francophone. Frédéric nous a informé qu'il y a au moins quoi 12% des profs de Dawson qui sont des francophones déjà. Ça, on a déjà commencé, on a déjà la capacité d'en faire un bout, quoi qu'il en soit.
Dont Frédéric Bastien, hein, un ancien candidat à la chefferie du... Est-ce que je me trompe, à la chefferie
du Parti québécois? Non, je voulais parler de...
Oui, des profs francophones à Dawson.
Oui, c'est ça, il en est un. Alors, donc, quoi qu'il en soit, effectivement, ensuite, il faut continuer à l'université. Mais j'avais fait mettre dans le programme du Parti québécois d'obliger les universités anglophones à avoir des cours de français obligatoires pendant tout le cursus pour maintenir ou augmenter la capacité linguistique, d'avoir un examen éliminatoire de connaissances du français à la sortie des universités, obliger les étudiants étrangers à avoir des cours d'introduction au français, parce que les étudiants étrangers anglophones à Montréal, sur lesquels Frédéric a travaillé aussi, c'est un facteur d'anglicisation du centre-ville. Là, dans les commerces, là, beaucoup des jeunes qui peuvent pas nous parler français, c'est parce qu'ils sont à McGill, ils sont à Concordia, et il y a eu aucun test de français à l'entrée, puis on leur apprend pas le français.
Dont parlait Frédéric Lacroix à l'instant. Donc, oui. L'université crée un milieu et des conditions favorables à cette anglicisation partout autour, autrement dit. Jean-François Lisée, je peux pas m'empêcher de vous demander, de vous poser la question suivante, une question qu'on vous a déjà posée sur d'autres sujets, celui de l'évolution de votre pensée, et je le dis sans, pas de manière narquoise, là, vous incarnez bien, je pense, cette intelligentsia, certains diraient l'establishment, mais j'aime plus ou moins le mot ici, là, mais disons cette partie du mouvement souverainiste importante qui, pendant de nombreuses années, disait, bon, renforcer la loi 101, le cégep français, tout ça, ce sont des... Choisissons nos combats, il n'y a pas urgence, faisons... pour le moment, faisons autre chose, concentrons-nous sur une gouvernance de telle ou telle nature, par exemple. Qu'est-ce qui vous a amené à changer d'idée sur la situation du français? Parce que d'aucuns vous diraient que ce qu'on constate aujourd'hui à travers des chiffres plus, j'allais dire, sonnants et trébuchants, on le sentait venir depuis, Frédéric Lacroix parlait d'une vingtaine d'années, certains parlaient de ça, il y a effectivement une vingtaine d'années, il se faisait de rechef envoyé au registre des caribous et autres purs et durs enflammés. Pourquoi avez-vous évolué là-dessus? Comment avez-vous évolué là-dessus?
Ben, j'ai beaucoup moins évolué que vous le dites, parce que sur la question du cégep, depuis 2006-2007, j'écris que le problème, c'est pas la loi 101 au cégep, le problème, c'est les cégeps anglophones. Alors, ça fait donc depuis 15 ans que je dis, ben, il faut régler le problème des cégeps anglophones, et j'avais fait une première proposition de cégep, de faire en sorte que tous les anglophones aillent au cégep francophone il y a 15 ans déjà. Comme chef du Parti québécois, j'ai introduit dans le programme le fait qu'il fallait obliger tous les cégepiens anglophones à faire plus de français et à faire une session d'immersion dans un cégep francophone. Donc ça, c'est un élément très fort qui est dans le programme du Parti québécois en ce moment.
Mais je remontais plus loin, Jean-François Lisée. Par exemple, je pensais au fait, pardon de vous interrompre, de ce que vous êtes l'auteur du fameux discours du Centaure de Lucien Bouchard, où on cherchait une certaine paix linguistique à travers la promesse de ne pas trop pousser fort là-dessus, non?
Ben, alors, je vous invite à le lire, parce que dans le discours du Centaure, je fais parler à Lucien Bouchard des études de Marc Termotte qui montrent que la proportion de francophones sur l'île de Montréal est en déclin, et je fais dire au premier ministre, si ça devait se confirmer, il faudrait prendre des mesures structurantes importantes pour empêcher ce déclin.
Ah.
Et ces chiffres-là se sont confirmés dans les années qui ont suivi, et j'ai toujours été très cohérent dans le fait, par exemple, je suis celui qui a introduit dans le débat il y a 10 ans que toute l'immigration devait être francophone, un geste extrêmement fort, que j'ai introduit dans le programme du Parti québécois. En fait, le programme du Parti québécois, sous ma gouverne, était beaucoup plus ambitieux de réformes structurelles, à la fois sur l'immigration et sur les cégeps anglophones, qu'aucun autre depuis celui de Camille Lorrain.
Merci, Jean-François Lisée. Il nous reste seulement 3 minutes, c'est épouvantable. Frédéric Lacroix, si vous aviez à revenir sur les propositions de Jean-François Lisée, alors on comprend que vous ne serez pas d'accord sur la question du cégep, de la loi 101 au cégep, mais pour le reste, est-ce que vous y vous trouvez, parce que le diagnostic se ressemble tout de même entre vous deux, est-ce que vous trouvez des propositions intéressantes?
Ben, je suis d'accord sur la loi 101 au cégep. Là, on se mêle dans les multiples saveurs des propositions. Là. Moi, je pense que l'extension des clauses scolaires de la charte au niveau collégial, c'est la mesure voir dans le projet de loi de Jolin Barrette pour que le projet de loi soit pris au sérieux. S'il n'y a pas ça, ben, son projet de loi, ça va être cosmétique. Je suis d'accord avec M. Lisée qu'il y a un problème important de connaissance du français des finissants du secondaire anglophone. Par exemple, on n'a jamais implanté le français intensif dans les écoles françaises. M. Couillard nous a passé ça. M. Couillard nous a passé l'anglais intensif dans les écoles françaises, mais il n'y a jamais eu de français intensif dans les écoles anglaises.
Anglaises, voilà.
Mm-hmm. C'est ça. Fait qu'il y a un problème majeur de connaissance du français de la part des anglophones, puis de proximité culturelle aussi, de connaissance de la culture québécoise. Mais on peut faire la loi 101 au cégep, puis revigorer les cours de français dans les écoles anglaises. Moi, je trouvais ça malheureux qu'on se retrouve à faire le débat sur l'unilinguisme du système scolaire de 1968 avec le MSA et François Aquin.
Ce que propose Jean-François Lisée là, dans la francisation.
Pourquoi?
Parce que vous trouvez que c'est chimérique ou irréaliste?
Ben, je trouve que c'est une digression. Ça nous emmène ailleurs. Puis là, ce qui est important, là, c'est de déboucher sur la loi 101 au cégep. Il faut se rallier à ça et faire déboucher ça.
C'est terrible, Jean-François Lisée. Je suis obligé d'arrêter ici, mais...
Je comprends l'argument de Frédéric, mais s'il y a des gens qui proposent des choses encore plus audacieuses, peut-être que M. Legault va dire, ben, la position de compromis, c'est celle de Frédéric Lacroix, ça, qu'on va prendre celle-là.
Alors, je vous écoute deux. Je suis obligé de vous interrompre, Frédéric Lacroix, mais à vous entendre ou à entendre Guy Rocher qui souhaite que Simon-Jolin Barrette soit le Camille Lorrain de la CAQ, le moins qu'on puisse dire, c'est que la barre est haute et j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir là une sorte d'échec qui pourrait ramener certains péquistes égarés au bercail, n'est-ce pas? Enfin, c'est une autre question pour une autre semaine. Merci beaucoup, Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, auteur, journaliste et le reste, chroniqueur au journal, au Devoir, vous écrivez dans le Devoir en ce moment, et Frédéric Lacroix, chercheur très, très versé dans les questions de langue, auteur de « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Merci à vous deux et à la prochaine.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Société cette semaine. À une prochaine. Profitez du beau temps.